La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à la chute du président Hosni Moubarak, acculé à la démission le 11 février 2011, après des semaines de manifestations dans toute l'Égypte. Mais comment le Raïs s'est-il maintenu au pouvoir pendant trois décennies ?
Je ne souhaitais en aucun cas briguer un nouveau mandat lors de la prochaine élection. J'ai passé assez de temps au service du peuple égyptien et de l'Égypte. Mais aujourd'hui, je souhaite terminer mon travail au service de la patrie. Je le dis clairement, durant les quelques mois qui nous séparent de l'élection, durant la fin de mon mandat, je ferai tout pour que les bonnes mesures soient prises afin d'assurer une transition pacifique.
La voix de Hosni Moubarak, telle qu'il s'exprimait à la télévision nationale, à quelques jours de sa chute, le 11 février 2011. Hosni Moubarak, accroché au pouvoir jusqu'aux derniers instants, a fini par le rendre à l'armée après 30 ans de parti unique. Entré dans l'histoire par accident, suite à la mort de Sadat, assassiné par un commando djihadiste le 6 octobre 1981, le vice-président Moubarak devenait alors le chef de l'État égyptien, comme le prévoit la Constitution. Et lorsqu'il devient président de l'Égypte, Hosni Moubarak est parfaitement inconnu de ses compatriotes. Il apparaît d'ailleurs comme un homme fade, surnommé par les Égyptiens la vache qui rit, à cause de sa façon de sourire. Le profil du Raïs est celui d'un militaire de carrière, promu général par Sadat pendant la guerre du Kippour et formé en Union soviétique comme tous ceux de sa génération. Si Nasser est l'homme de la construction nationale et Sadat celui de la paix avec Israël, Moubarak sera celui qui ramènera l'Égypte au sein de la Ligue arabe. Mais à l'intérieur du pays, comment Hosni Moubarak a-t-il réussi à maintenir un système de parti unique pendant 30 ans? Quel rôle ont joué l'armée et la police? Quelle répression ont subi les opposants? C'est ce que nous essayons de comprendre en donnant la parole aux Égyptiens. Au son des klaxons et du chant d'Oum Kalsoum, symbole de l'unité nationale, nous remontons le temps jusqu'en 2011. Nous sommes au Caire pour entendre celles et ceux qui ont vécu sous Moubarak pendant 30 ans, qu'ils soient militaires, féministes, militants politiques ou historiens.
L'Égypte, si vous voulez, depuis Nasser, mais avec des différences, est dirigée par un militaire habillé en civil, qui a quitté l'armée.
Toufik Akhlimendos.
Et un militaire ayant pantouflé depuis longtemps, ou depuis quelque temps, mais qui connaît l'armée. Alors, disons que Moubarak veut sauvegarder l'acquis, qui est l'acquis de Sadat, qui est que le président, qui est certes un militaire, gouverne seul. Il peut consulter, il peut déléguer, mais in fine, l'instance de décision suprême, c'est lui. Et il n'a pas besoin de l'accord de l'armée pour faire ce qu'il veut faire. Et en même temps, sa stratégie est d'accorder énormément de privilèges aux militaires.
Comment ça se traduit concrètement? Quel type de privilèges sont accordés aux militaires?
C'est-à-dire, c'est un moment où on fait des efforts conséquents sur le logement. Ça existait sous Sadat, mais là, ça se développe beaucoup plus. On fait un effort conséquent sur les voitures. On rappelle à un moment donné que tous les officiers pouvaient acheter à des prix défiant toute concurrence des Mazda, dernier modèle. Alors, pour ne pas exagérer, il faut voir aussi en sens contraire que les promotions se font plus lentement. C'est-à-dire que pendant la guerre, vous pouviez être colonel à 37, 38 ans, voire 36. Vous n'êtes plus colonel avant 48 ans. Mais dans l'ensemble, il y a un très gros effort. L'armée a des hôtels à Paris ou à Londres pour accueillir, ou des résidences pour accueillir les officiers ou leurs familles qui veulent y séjourner. On fait un gros effort. Sauf que l'Égypte connaît une passe budgétaire très difficile et que ces privilèges doivent être petit à petit reniés pour des histoires d'austérité budgétaire.
Toufik Akhlimendos, est-ce que ce système perdure dans les années 90?
Pendant les années 90, les exigences de la lutte contre les djihadistes égyptiens, contre les extrémistes radicaux les plus féroce de Haute-Égypte font que le ministère de l'Intérieur, lui, commence à se développer et qu'on commence à les soigner particulièrement, questions, conditions de vie.
Hosni Moubarak va vouloir rompre avec la tradition égyptienne puisqu'il envisage que son fils Gamal, qui n'est pas un militaire, mais un businessman, lui succède un jour. Alors comment est-ce qu'il s'y prend? Quelle stratégie il adopte dans les années 2000 pour favoriser son projet dynastique?
À un moment donné, alors on ne sait pas exactement quand, mais c'est clair que c'est fait en 2001, le président décide de groomer son fils, de préparer son fils à la succession. Et c'est aussi un moment, au niveau de l'armée, un très gros effort fait pour nommer, à chaque fois qu'il y a un poste vacant, la personne la plus compétente pour occuper ce poste. On nomme des professionnels. Alors, en interne, on fait comprendre à l'armée que, vu la radicalisation des Israéliens et des Palestiniens, que de toute façon, il peut y avoir une explosion régionale que personne n'a voulu, et qu'il vaut mieux améliorer la préparation de l'armée. On ne veut pas de guerre, mais au cas où on soit entraîné dans une guerre qu'on n'a pas voulu. Donc, ce qui se passe, c'est que le président commence à nommer systématiquement des gens extrêmement compétents, mais qui sont supposés ne pas s'intéresser à la politique.
Hosni Moubarak est-il en train de préparer sa succession? En tout cas, son fils semble sur la bonne voie. Le président égyptien a nommé Gamal Moubarak à un poste clé de son parti, le PND, un poste créé spécialement pour lui. Au Caire, Alexandre Bouchanti.
Le nouveau poste de Gamal Moubarak lui confère une large marge de manœuvre. En effet, en tant que secrétaire du parti chargé de la politique interne, le fils du raïs doit opérer la refonte du parti. Un parti qui n'a aucune orientation politique, si ce n'est que d'être le parti du président Moubarak. Pour la majorité des Égyptiens, il s'agit là d'une opération de préparation de succession. Une succession qui sera progressive, puisque Gamal Moubarak devra écarter la vieille garde en douceur et surtout obtenir la bénédiction de l'armée avant d'être éventuellement présidentiable. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Toufika Kilmandos, nous sommes en 2002, lorsque Alexandre Bouchanti, notre correspondant au Caire, annonce le projet de Moubarak. Vous, qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là?
Alors, on comprend à un moment donné la question qui va tarauder tous les observateurs, c'est est-ce que l'armée va accepter ce plan de transmission héréditaire qui signifie, in fine, que c'est un civil qui va prendre le pouvoir et en plus le fils d'un président remet en question le pacte social égyptien.
Donc on passerait d'une transmission du pouvoir de militaire à militaire à une transmission dynastique.
Oui. Le remaniement constitutionnel ressemble à une démocratisation relative, sauf qu'elle est très relative, très limitée, et l'armée lit surtout à juste titre, je pense, comme une volonté de la mise en écart des militaires. C'est-à-dire que, certes, vous pouvez présenter un candidat à la présidentielle, mais il faut que ce candidat ait été membre de l'instance dirigeante d'un parti pendant X temps. En gros, ça revient à exclure les militaires. Donc ils le prennent très mal.
L'armée au cœur du pouvoir en Égypte, l'armée populaire auprès des Égyptiens, c'est une des clés de compréhension de l'exercice du pouvoir, en tout cas depuis 1952 et le coup d'État des officiers libres dont est issu le président Nasser. Et ça a continué sous Sadat et encore sous Moubarak. Et c'est encore aujourd'hui le cas puisque le président Abdel Fattah el-Sissi est l'instigateur du coup d'État militaire du 3 juillet 2013 contre le président islamiste Mohamed Morsi. Abdel Fattah el-Sissi, dont l'élection en mai 2014 a favorisé la reprise en main du pouvoir politique par l'armée. Mais en 2011, justement, c'est la rue qui a pris le pouvoir au Caire, dans un pays arabe en pleine révolution citoyenne. Un combat également porté par les femmes. Et c'est un grand honneur d'avoir pu rencontrer à l'époque Houda Bodran, car elle a connu tous les présidents égyptiens, de Nasser à Moubarak, en passant par Sadat. Elle est docteur en sociologie et à 83 ans, elle présidait alors la toute nouvelle Fédération des femmes égyptiennes qui regroupait toutes les associations pour la défense des droits des femmes du pays. Je l'avais retrouvée au siège de la Fédération pour qu'elle me raconte l'évolution du statut des femmes sous Moubarak.
I'll tell you, I remember, during Sadat, I was teaching at the university. And I used to go teaching in miniskirt.
Il faut que je vous dise que sous Sadat, j'enseignais à l'université et j'allais enseigner en mini-jupe. J'ai d'ailleurs des photographies de Jiyan, la femme de Sadat, et de moi-même dans des conférences officielles. Je m'adresse à elle et je suis en mini-jupe. Alors, je ne fumais pas, mais de toute façon, je n'ai jamais fumé et je n'ai jamais eu cette habitude. Mais j'allais régulièrement en short au supermarché, juste de l'autre côté de la rue. Et ça se passait sous Sadat. Ma mère ne portait pas le voile, même pas une simple écharpe. Alors, au milieu des années 70 et jusqu'au milieu des années 80, je travaillais pour les Nations Unies, à l'étranger. Et quand je suis rentrée, Sadat avait été assassiné. Et la plupart de mes vêtements étaient courts et sans manches. Ma fille, elle, était restée en Égypte. Et quand j'ai voulu me rendre au supermarché en short, elle m'a dit « N'y va pas comme ça! Ne sors pas dans la rue en short, ça ne se fait plus! Maman, tu dois mettre un châle sur tes épaules, car on ne veut plus voir personne sans manches. » Donc, c'était vraiment dans les années 80 que les choses ont commencé à changer. Et c'était sous Hosni Moubarak.
Houda Bodran, comment cette régression des droits des femmes s'exprime dans la loi égyptienne?
Deux événements montrent la régression de la cause des femmes. Tout d'abord, l'abolition du quota de femmes au Parlement. Et le fait qu'une femme qui ne voudrait plus partager son mari polygame n'ait pas automatiquement accès au divorce bien qu'elle le désire. Et ça aussi, c'est un recul. Et il est très préjudiciable que ceux qui, au Parlement, ont approuvé les législations en faveur des femmes sous Sadat soient les mêmes que ceux qui se sont levés pour les critiquer, pour demander qu'elles soient abolies. Et c'est encore le fait de la religion. Et pourtant, certains religieux parmi les parlementaires avaient approuvé ces lois précédemment. Cela vous montre vraiment jusqu'où va l'hypocrisie.
Egypt played its card in terms of women wrong.
L'Égypte n'a pas joué la bonne carte avec les femmes, car lorsque Hosni Moubarak est arrivé, le message qu'il a délivré aux fondamentalistes, c'était « Regardez, notre régime est plus musulman que le vôtre ». Donc, nous avons régressé dans les années 80 avec l'arrivée de Moubarak, et le mouvement des frères musulmans est devenu encore plus fort.
Quel était l'impact dans le quotidien des femmes de cette régression ?
Le port du voile commençait très sérieusement à progresser. Je ne suis pas en train de vous dire que sous Sadat, le voile n'existait pas, mais c'était minoritaire. Lorsque je suis rentrée au milieu des années 80, la plupart des femmes étaient voilées. Et sur les murs, on pouvait lire « Toi, ma sœur, si tu veux être une bonne musulmane, il faut te voiler. »
Des slogans sur les murs, mais aussi des prédicateurs à la télévision.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونكمل مع بعض خامس يوم رمضان أخباركم إيه والهمم إيه والناس بذلة مجهود وعايزين ربنا يغفر لنا السنة دي ويرضى عننا السنة دي ويرحمنا ويعتقنا ويعتق رقابنا ويغفر لنا
الناس اللي عمر خالد this is a Muslim speaker who would go to urge girls to have veil.
Et Omar Khaled, cet orateur musulman qui incitait les femmes à se voiler, même les étudiants de l'université américaine du Caire allaient l'écouter. Je dois vous dire que j'avais une aversion pour cet homme. Jusqu'à sa voix, il y avait quelque chose dans sa façon de parler, cette voix sans véritable virilité, ni masculine ni féminine, quelque chose entre les deux. Et vous auriez vu l'audience qu'il faisait après avoir dit combien nous devions être de bonnes musulmanes et ainsi de suite. Il terminait en déclarant qu'à chaque fois qu'une femme osait sortir dans la rue sans être voilée, elle défiait Dieu. Et il pleurait. Et ça aussi, je détestais.
And then he gets and he cries, and that also I detest. So, in the 80s, the veil started increasing.
Donc, dans les années 80, le voile s'est développé et dans les années 90, nous sommes devenus minoritaires. En comparaison avec la majorité voilée, nous étions discriminés. Vous alliez dans un bureau administratif et la fille au guichet qui était supposée vous servir, parce qu'elle est un agent administratif de l'État, elle vous reçoit mal parce que vous n'êtes pas voilée. Le nombre de fois où j'ai contesté. Mais malheureusement, certaines femmes se voilent non par conviction, mais parce qu'elles subissent des pressions.
Who feels the pressure to be veiled, although they are not convinced that they should be veiled. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود انا يا مصبرت
Nous ne souhaitons pas que le président actuel reste à son poste. Nous souhaitons que ce jour soit l'occasion de renouveler les résolutions des forces d'opposition qui appellent au changement.
Les porte-parole du mouvement Kefaya, ce qui signifie « assez » en arabe, lors de leur conférence de presse du 4 mai 2010, à l'occasion du 82e anniversaire de Hosni Moubarak.
Pour mettre fin à cette situation disgracieuse dans laquelle se trouve l'Égypte, que ce soit d'un point de vue économique, social ou politique. La première de nos revendications, c'est la paix radicale qui exprime la conscience du mouvement Kefaya. Nous appelons à une fin pacifique du régime actuel avec les moyens de la désobéissance civile, ce qui veut dire bien sûr des manifestations, des grèves et tous les modes d'expression garantis par la Constitution et les engagements internationaux.
La voix extraordinaire de celle qui incarne le nationalisme égyptien, la voix de Oum Kalsoum, dont les vibrations se mêlent au son des klaxons incessants de la ville du Caire, dont l'écho se mêle aussi aux chants, aux danses, aux slogans de la place Tahrir, épicentre d'une révolution citoyenne filmée dans tous les sens en 2011 par les téléphones portables et les caméras du monde entier, sous le regard d'une armée égyptienne attentiste. Mais bien que des violences policières aient été commises dans le reste du pays, l'armée reste populaire et affiche alors son soutien au peuple, toujours plus nombreux dans les manifestations, qui réclament le départ de Moubarak. Mais au-delà du changement d'homme, c'est un changement de système qui est exigé. Un système clientéliste, corrompu, où l'exercice de la répression a toujours été ciblé. Hosni Moubarak.
Je veux vous dire que le sang de vos martyrs et de vos blessés n'aura pas coulé en vain et je veux vous assurer que je ne ménagerai pas mes efforts pour punir les responsables avec toute la sévérité requise. Je demanderai des comptes à tous ceux qui ont commis des crimes contre notre jeunesse et j'appliquerai les sanctions les plus dures prévues par la loi. Et je veux dire qu'en tant que président de la République, je n'éprouve aucun embarras et aucune colère à écouter les revendications de la jeunesse de mon pays et à y répondre. Mais le plus grand des embarras et la plus grande des hontes, et ce que je n'accepterai jamais, c'est d'écouter les injonctions de l'étranger, et cela, quelles qu'en soient les origines, les objectifs ou les justifications.
On n'avait pas le droit d'avoir des réunions publiques en dehors des sièges du parti. On n'avait pas le droit d'avoir des manifestations. On n'avait pas le droit de travailler en tant que parti politique ni dans les syndicats des ouvriers, ni à l'université. C'était un régime de parti unique et c'était un régime qui faisait du pluralisme un faux semblant.
La marche du monde est en Égypte pour évoquer les années Moubarak, 30 années de parti hégémonique où le pouvoir n'a jamais accepté l'évolution démocratique réclamée par les militants des différentes formations politiques. Des militants surveillés, des militants réprimés, mais qui ont fini par vaincre leur peur. C'était dans les années 2000, comme vous allez l'entendre. En 2011, au Caire, nous avons été reçus par Mahmoud Abassa, une grande figure du WAFT, le parti libéral, laïque et nationaliste égyptien. Il est avocat, ancien responsable de la jeunesse wafdiste, et il a dirigé le WAFT de 2006 à 2010. Mahmoud Abassa, cette confiscation du pouvoir au peuple, pour le tenir uniquement entre les mains du chef de l'État, il faut revenir finalement à Nasser pour le comprendre. Alors c'est vrai que Nasser, c'est bien sûr ce mouvement des officiers libres qui prend le pouvoir en 52 sous forme d'un coup d'État. Donc c'est la chute de la monarchie du roi Farouk. Mais en 54, c'est Nasser qui va vraiment supprimer, en fait, rendre illégale la pratique de la politique dans votre pays, l'Égypte. Alors vous, qui, dès l'âge de 20 ans, vous êtes engagé en politique, quel est votre vécu d'homme politique, engagé, de président de parti, dans une configuration où, effectivement, cette liberté d'expression, cette liberté politique, cette liberté électorale n'existe pas réellement?
Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours dit aux jeunes dont j'ai été responsable pendant 20 ans dans le WAFT, que faire de la politique en Égypte dans ces conditions supposait deux choses. La première, c'est de résister à la frustration. Et l'autre, c'est résister aux sirènes du pouvoir. Donc il fallait pouvoir résister sur deux fronts. Parce que on parlait de l'opposition comme une partie du régime, alors qu'on l'égorgeait à toutes les élections. Et par conséquent, c'était extrêmement frustrant. Ceci dit, il y a eu quand même un point très important qui a commencé en fait sous Moubarak, pas tellement sous Sadat. Sous Sadat, c'était des ouvertures extrêmement timides. Mais sous Moubarak, il y a eu un élargissement notoire de la liberté de la presse. Et puis un peu plus tard, dans les 10 dernières années, de la télévision, à cause des télévisions privées. Et surtout du fait qu'on ne pouvait pas empêcher les différentes télévisions arabes, et particulièrement Gezira, d'être suivies. C'est un peu ce qui s'est passé en Europe de l'Est quelques années avant. Et par conséquent, quand le pouvoir dictatorial a perdu ce contrôle de la presse, de l'information, et des opinions, le processus démocratique s'est mis en place. Alors évidemment, il y avait de la part du régime de Moubarak une très grande incapacité à prévoir les résultats. Vous savez, le régime totalitaire a deux bases. Une police qui n'est pas soumise à la loi et le contrôle de l'information. Si on perd une de ces deux bases, le totalitarisme s'écroule.
Mahmoud Abaza, lorsque vous étiez plus jeune, concrètement, comment se comportait la police avec la population et avec ceux qui, comme vous, faisaient de la politique? Comment exerçait-elle sa répression? Comment contrôlait-elle la population?
Vous savez, d'abord, sous Nasser, c'était les services secrets. Pas directement la police. Enfin, il y avait aussi ce qu'on appelait les renseignements généraux, mais c'était surtout les mukhabarat. Sous Sadat, il faut reconnaître que, dans une très grande partie, les services secrets ont agi à l'extérieur, plus à l'intérieur, mais ils ont été remplacés à l'intérieur par ce qu'on appelle la sécurité de l'État, qui est devenue une force dominante. Et le mouvement islamique en a beaucoup souffert, énormément, parce qu'il y avait aussi la violence et la contre-violence, le terrorisme et le contre-terrorisme, et tout ça. Et comme elle n'était pas soumise au droit, à la loi, tout le monde avait des fichiers.
Mahmoud Abaza, concrètement, ça veut dire quoi, être fiché? Vous étiez surveillé. Concrètement, oui, comment faut-il imaginer cette surveillance,
depuis,
cette pression
politique? Au moins 15 ans, je suis sûr que mon téléphone était sur écoute. Ça, c'est évident. Le président de mon parti, enfin l'ancien président de mon parti, Fouad Saraguedine, quand il a été arrêté en 81 par Sadat, on lui a fait écouter des enregistrements de discussions qui se sont passées dans sa chambre à coucher. Bon, c'est vrai qu'il recevait ses amis dans sa chambre à coucher parce que c'était un vieux monsieur. Mais c'était comme ça. Et bon, par conséquent, nous savions, par exemple, que notre comité supérieur du parti, quand il se réunissait dans le parti, il était directement retransmis, les discussions étaient directement retransmises à la sécurité de l'État. On a pris l'habitude de savoir qu'il y avait toujours une personne qui écoutait tout ce qu'on dit. Et alors, quand on était jeune, on s'amusait à leur faire des tours. Par exemple, j'appelais un camarade du parti Alexandrie en lui disant « Nous allons faire une réunion à tel endroit », alors qu'il n'y avait pas de réunion. Et on appelait nos camarades dans cette ville. Et alors on disait que le siège du parti était entouré par des policiers en civil. Et on s'amusait énormément. Mais
il y a eu des choses moins drôles, Mahmoud.
Oui, évidemment.
À Baza.
Je vais vous dire, dans les élections de 84, nous avions des candidats. Et je me souviens qu'en août 86, j'étais chez le président du parti, Fouad Saraguedine, à l'époque. Et j'étais chez lui à Alexandrie. Et il appelait le ministre de l'Instruction publique. Et il m'a dit, aujourd'hui, je viens d'annuler la dernière mesure discriminatoire qui a été prise contre les fonctionnaires qui étaient membres du WAFT dans les élections de 84. Alors, vous avez, par exemple, un professeur. S'il enseigne dans son village, alors on le mute à un village à 40 km. Les transports lui coûtent autant que son salaire. La même chose pour un ingénieur agronome. La même chose pour un fonctionnaire, quel qu'il soit. Ça, c'est une chose. D'autres choses aussi, il y avait par exemple les fils des membres de l'opposition ne pouvaient pas aller à la police. N'était pas admis pour aller à l'académie de police.
Pour faire carrière dans la police.
Pour faire carrière ou à l'académie militaire, comme étudiant, ou au parquet. C'était très, je dirais, très organisé, très bien organisé.
Mahmoud Abaza, vous nous dites faire de la politique ici en Égypte, telle que moi j'ai vécu, c'est de la frustration. C'est aussi résister aux sirènes de la corruption. Est-ce que ce n'est pas aussi résister à la tentation radicale, voire violente, c'est-à-dire à la lutte armée? Notamment lorsque vous étiez jeune, est-ce que ça vous a traversé l'esprit?
Non. Je dois dire que, sauf dans le mouvement religieux, ça n'a jamais été une tradition égyptienne. Enfin, oui, pendant la révolution de 19, c'était le cas. Mais depuis 23, je ne crois pas que, sauf dans ce qu'on appelle le courant religieux, il y a eu de la violence. C'est loin de la tradition égyptienne. Même les communistes, dans les années 40, qui ont été violents ailleurs, n'ont jamais eu recours à la violence, ni aux organisations secrètes violentes, c'est-à-dire armées.
Mahmoud Abaza, quelles sont vos relations finalement avec ceux qui sont en place Tahrir? Est-ce que c'est facile pour les partis traditionnels de participer, de dialoguer avec ce mouvement?
C'est-à-dire surtout à travers la jeunesse de ces partis. Moi, je considère qu'il y a eu de nouvelles forces vives qui ont changé le régime, enfin en réalité, parce que les partis traditionnels, y compris les Frères musulmans, sont là depuis au moins 30 ans. Ils n'ont pas fait ce changement, ils n'ont pas réussi à faire un changement, ni même graduel. Donc, ce sont ces jeunes qui se sont réunis à travers l'Internet, à travers ce qu'on peut appeler les organisations virtuelles, et qui ont réussi à casser le régime.
Vous aviez dit aussi que le régime était peut-être enfin cassable.
Oui, évidemment. Tous les régimes qui sont tombés depuis, je vous dirais, les années 70, en parlant du Portugal et de l'Espagne, par exemple, ensuite de l'Europe de l'Est, ensuite de... Ces régimes sont tombés parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le poids de leurs fautes, voire de leurs crimes.
Mais c'est vrai, comme vous le soulignez, que ce ne sont pas les partis traditionnels qui ont récolté ce fruit.
C'est grâce à cette force vive nouvelle, qui n'était pas prévue, en fait, dans l'équilibre des forces actuelles, qui a cassé le régime. Seulement, ceci étant dit, une fois qu'on a détruit la structure, il faut d'abord enlever les débris, nettoyer le terrain et reconstruire une nouvelle structure. Là, ça devient beaucoup plus difficile pour ces forces vives de le faire. Et c'est pour ça que nous vivons à l'heure actuelle une période de transition passionnante et dangereuse. Évidemment, il va se passer en Égypte comme ce qui s'est passé un peu en France après la libération, c'est-à-dire une nouvelle restructuration de la vie politique qui puisse faire face aux nécessités du XXIe siècle. Et je crois que le peuple égyptien mérite cela.
Donc au fond, en tant que politique, en tant que citoyen égyptien, Mahmoud Abaza, vous espérez bien sûr de nouvelles adhésions dans votre parti, le WAFT, mais vous allez vous réjouir si vous voyez de nouveaux partis exister, se créer.
Je crois qu'il y aura de nouveaux partis, de nouvelles forces. Je crois que tous les partis existants vont changer parce que le monde a tellement changé et la société égyptienne a tellement changé durant ces 30 ans qu'on ne peut plus reproduire un modèle quelconque. Il faut découvrir un nouveau modèle.
C'est à la nouvelle génération d'avoir de l'imagination et d'inventer cette nouvelle ère politique en Égypte.
Et d'inventer ce nouveau modèle. Et aussi d'avoir le droit de faire quelques conneries. Nous en avons tous fait. Pourquoi est-ce qu'on va empêcher cette génération d'en faire? Il faut qu'ils apprennent, mais il faut leur laisser le temps et le privilège de se tromper.
Dix ans après la chute de Hosni Moubarak, nous écoutons celles et ceux qui ont été réprimés sous Moubarak au nom de leurs idées politiques parce qu'ils militaient pour le pluripartisme en dehors du sacro-saint parti unique, le PND. La police, bras de la répression en Égypte, la police discréditée auprès des Égyptiens depuis la révolution de février 2011. J'ai demandé à un militaire, le général Samer, de m'en parler et notamment des relations entre la police et l'armée.
Bien, sans aucun doute, la police à cette époque a fait un excellent travail. Nous étions attaqués par différentes sortes de terrorisme. Et la police a réussi à stopper ce mouvement, particulièrement après le terrible massacre de Luxor. Et la police avait totalement repris le contrôle du pays jusqu'au début de la révolution. Et là, tout a basculé.
Ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, la lutte contre le terrorisme a pu être aussi un prétexte utilisé par le pouvoir pour finalement exercer une répression de plus en plus forte à l'égard des Égyptiens et avec un pouvoir qui peut-être s'est durci à ce moment-là?
Yes, definitely. They did many mistakes, and that's why people were against them after the revolution.
Oui, absolument. Ils ont commis beaucoup d'erreurs, et c'est bien pour cela que le peuple était contre la police après la révolution, et plus spécialement contre la division de la sécurité nationale qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ils ont fait beaucoup de tort aux Égyptiens, ils ont étouffé la population et c'est pour cela que les gens ont mis le feu au commissariat de police, ont pris d'assaut les prisons pour libérer les prisonniers. Tout cela s'explique par la vengeance. Le peuple d'Égypte veut se venger des attaques de la police qu'il a subies pendant toutes ces années passées. Mais j'espère que le calme va revenir, car nous avons besoin d'une police pleinement responsable dans nos rues.
Général Samer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre propre expérience, des relations entre finalement la caste des militaires ici en Égypte? On le sait, cette caste est au centre du pouvoir. Quelles sont ses relations avec une autre caste qui est chargée très souvent de la répression, c'est-à-dire la police? Et d'ailleurs, quand on traverse le Caire ces jours-ci, on voit bien la police qui est place Tahrir.
Disons que notre police n'est plus aussi forte qu'avant la révolution du 25 janvier. Elle s'est affaiblie. C'est pour cela que l'armée a décidé d'aider la police pour assurer le retour de la sécurité dans le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, la collaboration entre l'armée et la police, et tout spécialement la police militaire, est très étroite, mais c'est un phénomène récent. Et je pense qu'il va falloir plusieurs mois, voire une année, avant que la situation revienne à la normale et qu'ainsi la police retrouve son autonomie.
Merci beaucoup, Général Samer, d'avoir témoigné pour la Marche du Monde.
It's my pleasure to be with Radio France anytime, and my pleasure to talk to the French community. Thank you very much.
La parole se libère en Égypte. Toutes celles et ceux qui ont été réprimés, frères musulmans, nasséristes, wafdistes, communistes, vous racontent leurs arrestations, leurs condamnations arbitraires, leurs années de prison. Certains militaires acceptent même de parler dans le micro, en dehors de leur caserne. Et dans la rue, au quotidien, les Égyptiens, jeunes et moins jeunes, vous disent qu'ils ont gagné la liberté d'expression et que plus jamais le pouvoir ne pourra les faire taire. Et d'ailleurs, en 2011, c'est toute la jeunesse africaine qui regarde du côté de la place Tahrir, comme on peut l'entendre à l'époque depuis le Forum social de Dakar.
Il est 8h à Paris, 9h au Caire.
RFI, édition spéciale.
Édition spéciale aujourd'hui sur RFI consacrée à la situation en Égypte. Reportage direct invité pour accompagner l'histoire en marche en ce moment dans le pays. Et on commence avec le journal Nicolas Sûr.
Le monde entier, on le comprend, a donc les yeux tournés ce matin vers l'Égypte. Ces événements sont notamment suivis à Dakar où se déroule le Forum social mondial. Laurent Courreau, vous êtes en ligne avec nous de la capitale sénégalaise. Les participants de ce forum, Laurent Courreau, se sont passionnés heure par heure pour ce qui se passe en Égypte.
Oui, on peut dire qu'il y a vraiment eu deux temps. D'abord, l'effervescence liée aux échos d'un possible départ de Hosni Moubarak. Je me souviens de la liesse qu'a déclenché dans l'un des amphithéâtres du Forum social mondial l'intervention d'un militant qui a saisi le micro et qui a annoncé tout à coup « Moubarak est en train de partir ». Il a déclenché un tonnerre d'applaudissements. Il y a aussi eu cet homme enthousiaste à la tribune d'une autre assemblée qui a lancé « Aujourd'hui ». Toute la planète est égyptienne. Le discours de Moubarak dans la soirée a du coup créé une certaine frustration après les espoirs de l'après-midi. On est totalement déçu, confiait ainsi l'altermondialiste nigérien Moussa Tsangari, selon qui cela n'a aucun sens que Moubarak reste. J'espère, disait-il, que le peuple égyptien va continuer à être mobilisé et qu'il va finir par partir. Partout, ajoutait-il, nous devons nous aussi nous mobiliser pour soutenir le peuple égyptien.
Cette expérience incroyable qui consiste à franchir la ligne rouge, ce moment unique où l'on arrive à vaincre sa peur, à descendre dans la rue pour dire « dégage » à son dictateur, c'est Georges Isaac qui en parle le mieux. Georges Isaac est un jeune homme de 70 ans, aux yeux brillants, qui porte la barbe courte et le verbe haut. Au Caire, où je l'ai rencontré, il présidait l'association Kefaya, qui veut dire « assez » en arabe. Et lui aussi, il travaillait nuit et jour, en 2011, à la démocratisation de son pays. Georges Isaac, merci infiniment de nous recevoir dans votre bureau du Caire avec un merveilleux café, donc ça sera d'autant plus agréable. Et nous sommes très heureux parce que vous êtes une grande figure de la société civile ici en Égypte. Vous êtes le fondateur, ou tout du moins l'un des fondateurs de ce mouvement, Kefaya, qui veut dire « assez » en français. Un mouvement fondé en 2004, ce qui prouve que les Égyptiens ne sont pas passifs et que l'organisation de ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution égyptienne a certainement des racines que nous devons creuser et approfondir ensemble. J'aimerais tout d'abord que vous nous disiez, vous qui avez une âme de militant, quel est votre premier souvenir politique de militantisme ? La première fois où vous, d'une certaine façon, vous avez dit « assez ».
Tout a commencé en 2003. Nous nous étions réunis pour partager un banquet d'iftar à la rupture du jeûne pendant le ramadan. Autour de la table, il y avait 35 personnes, toutes sensibilités politiques confondues. Il y avait des frères musulmans, des nationalistes, des socialistes, des libéraux. Et notre idée, c'était de travailler collectivement sur la question de l'Irak et de la cause palestinienne.
Alors, comment avez-vous travaillé tous ensemble ici au Caire ?
We start to make meeting every week to arrange what we can say in our documentary.
Nous avons commencé à nous retrouver toutes les semaines pour mettre au point notre manifeste. Comme vous le savez, il est très difficile de trouver un thème, une idée, une vision commune lorsque autant de personnalités sont réunies. Mais nous avons fini par mettre au point le texte de notre première déclaration et nous l'avons posté sur Internet. Et alors, je regardais la chaîne Al Jazeera, j'ai vu que 300 personnes avaient signé notre déclaration. Je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Vous savez, ce n'était pas la première fois qu'on essayait de mobiliser. Et cette fois, nous avions 300 personnes issues de l'élite, des universités, des usines. Toutes sortes de profils avaient signé cette déclaration. Vous savez, quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit... Qu'est-ce qui s'est passé ? Et enfin, j'ai réalisé que nous avions réussi.
Ce qui est remarquable, c'est que non seulement vous avez réussi à travailler avec des sensibilités très différentes, mais en plus, vous avez réussi à faire manifester tout le monde, toutes sensibilités politiques confondues.
Yes. So suddenly we came out and we said.
Donc nous sommes soudainement sortis dans la rue et nous avons dit que plus jamais nous ne resterions à l'intérieur. Désormais, nous étions dans la rue. Et à cette époque, les journaux étaient aux ordres. Ils ne critiquaient jamais ni Moubarak, ni sa femme Suzanne, ni son fils Gamal. C'était interdit. Et donc, lorsque nous sommes sortis manifester avec notre mouvement Kefaya, nous pensions que réunir 100 personnes, ce serait déjà un grand succès.
Before we go to this demonstration, it was 12/12/2004. This is the first demonstration.
Pour cette manifestation du 12 décembre 2004, c'était notre première manifestation devant le palais de justice. Nous avions dû choisir le jour et l'endroit. Le jour, c'était la journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre de chaque année. Mais ça tombait un vendredi. Alors, nous avons décidé de faire notre manifestation le dimanche suivant. Et le lieu, c'était la place devant le palais de justice pour signifier que la loi doit nous protéger.
So when we go to this demonstration, we found 1,000 persons.
Et finalement, lorsque nous sommes arrivés pour manifester, un millier de personnes étaient là et nous étions sous le coup de la loi qui avait décrété l'état d'urgence. C'était très compliqué, vous savez, je ne suis pas si courageux et je me souviens que lorsque je suis arrivé à la manifestation, j'avais un peu peur. Mais ça a été la première et la dernière fois. Depuis, plus rien ne m'effraie. Je me suis lancé. Et quand je me suis lancé dans la manifestation, je me suis senti en paix. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait autant de monde, je me suis senti géant. Et Kefaya m'a libéré. Nous avons bravé la culture de la peur. Nous avons obtenu le droit de manifester. Et nous avons gagné le droit de critiquer le président. Oui, la première chose que nous avons dite, c'est Moubarak. 23 ans, ça suffit.
La première chose que nous avons dit, Mubarak, 23 years, it is enough for you.
Et c'était en 2004. Mubarak, assez, scandait George Isaac. Mubarak, dégage, reprenait la place à Hir en 2011. Une invitation qui coulait comme du miel aux oreilles des militaires, qui eux aussi en avaient assez d'un président prêt à placer son fils au détriment de leur puissante caste. Si Mubarak est parti, la révolution a accouché d'un pouvoir islamiste sur le modèle turc, bientôt renversé par l'armée. Une armée égyptienne qui conserve les clés du palais présidentiel.
وبكرة واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقي مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية
Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde avec Mahmoud Abbasa, ancien président du parti Waft, Toufik Aklimandos, historien de l'Égypte contemporaine, Ouda Bodran, sociologue et ancienne présidente de la Fédération des femmes égyptiennes, George Isaac, l'un des pères fondateurs de Kefaya, et le général Samer Sef Al-Yazal, ancien membre des services secrets de l'armée, docteur en sciences politiques. Une émission réalisée par Sophie Janin avec la complicité de Sahar Talat et les archives de RFI. N'hésitez pas à nous écrire marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre podcast. Cette émission, c'est la vôtre.
سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي دول الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من تعدي ولا احتفال
في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي صوت الحرية
L'épopée des musiques noires.
Le 24 août 1958, le saxophone.